cherché ici quelque chose. Je ne sais pas si. Cela nous conduira très loin, mais enfin, ça va faire un changement. Tous ces temps derniers, il était toujours question de progrès et de comment progresser. Et ce qui empêchait de progresser. Et comment utiliser la force supramentale, etc. Ça continue, j'en ai tout un paquet encore. Mais nous pouvons changer de sujet pour une fois. Et il y a quelqu'un qui m'a posé une question concernant la mort. Ce qui arrive après la mort et comment on reprend un nouveau corps. Inutile de vous dire que c'est un sujet qui pourrait remplir des volumes, qu'il n'y a pas deux cas semblables, que pratiquement tout est possible dans cette vie après la mort. Comme tout est possible sur la Terre, quand on est dans un corps physique, et que toutes les affirmations, quand elles veulent être généralisées, deviennent dogmatiques. Mais enfin, on peut regarder le problème dans certains détails, et quelquefois, on fait des découvertes intéressantes. J'ai ici une question comme ceci. Quand une âme particulièrement développée quitte le corps, prend-elle l'enveloppe physique subtile avec elle? Quand elle est réincorporée, comment l'introduit-elle dans le nouveau corps? Ça, déjà, pour répondre à ça, comme je vous ai dit, il faudrait écrire des volumes ou parler pendant des heures. Parce que, à dire vrai, il n'y a pas de cas semblables. Il y a des analogies, on peut faire des classifications, mais c'est purement arbitraire. Ce que je voulais faire, c'est de vous lire ce qui suit. Parce que c'est assez amusant. Oh, je ne veux pas être pas sérieuse. Disons, c'est assez intéressant. Ces questions se posent à propos d'une vieille tradition indienne. La connaissance occulte du sage roi Pravanahana dont parlent les Upanishads, Chandogya et Brihadaranyaka. Il est dit qu'après la mort, l'âme de ceux qui ont fait des bonnes actions prend la voie des cieux, Pitriyana, prend la voie des aïeux, pas des cieux, des aïeux, Pitriyana, devient la fumée, la nuit, etc. arrive au monde des ancêtres et finalement au paradis lunaire. Le Brahma Sutra en déduit que l'âme prend avec elle tous les éléments, même du physique subtil, qui seront nécessaires pour la prochaine incarnation. Alors une question, est-ce exact? Le physique subtil est-il suffisamment conscient dans ces cas? Nous réservons les questions. Je continue. Puis les Upanishads continuent. Après avoir épuisé l'amas de bonnes actions, l'âme sort du paradis lunaire, arrive au ciel, puis à l'air, puis aux nuages, en prenant la nature de chacune de ces choses, se jette sur la terre en pluie, entre dans les graines, pénètre dans le corps du Père sous forme de nourriture et finalement constitue le corps de l'enfant. C'est vraiment un procédé un peu compliqué, non? Mais j'ai trouvé ça très amusant. Et la question, est-il nécessaire de suivre ce processus incertain et hasardeux? L'âme n'anime-t-elle pas le corps directement avec tous les éléments mentaux, vitaux et physiques subtils organisés autour d'elle et nécessaires pour la vie suivante? Prend-elle des éléments du monde physique subtil? Dans ce cas, comment s'harmonise-t-il avec les caractères héréditaires? Surtout, doit-elle passer par le corps du père? Voilà. La seule chose que je puisse dire, c'est que il se peut que parfois ça se passe comme ça. Il est probable, au moins je l'espère, que celui qui a fait cette description a observé un phénomène de ce genre. J'espère que ce n'est pas seulement une construction mentale de son imagination occulte. Ça soulève quelques problèmes pratiques. Mais enfin, Évidemment, il n'y a rien qui soit impossible. Seulement, on voit avec difficulté l'âme pénétrée la pluie qui pénètre la graine qui fait pousser la plante et puis qui entre sous forme de nourriture plus ou moins cuite dans l'estomac du père et puis finalement procède à la conception de l'enfant. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très, 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 très compliqué. Et je peux dire que j'ai assisté à une quantité innombrable d'incarnation d'âme évoluée dans des êtres qui étaient ou en préparation ou déjà nés. Comme j'ai dit, les cas sont assez différent. Cela dépend plus de conditions psychologiques que de conditions matérielles, mais ça dépend aussi des conditions matérielles. Ça dépend de l'état de développement de l'âme qui veut se réincarner. Nous prenons le mot âme ici dans le sens d'être psychique, n'est-ce pas? Ce que nous appelons l'être psychique. Cela dépend de son état de développement. Cela dépend du milieu dans lequel il va s'incarner. Cela dépend de la mission qu'il a à remplir. Cela fait beaucoup de conditions différentes. Cela dépend énormément de l'état de conscience des parents. Parce que il va de soi qu'il y a une différence formidable entre faire un enfant volontairement, avec une aspiration consciente, un appel vers le monde invisible, et une ardeur spirituelle que de faire un enfant par accident et sans l'avoir voulu, et quelquefois même sans le vouloir du tout. Je ne dis pas que dans ce dernier cas, il ne puisse pas y avoir aussi une incarnation, mais généralement, elle se produit plus tard. Pas à la conception. Pour la formation de l'enfant, c'est très différent. Si l'incarnation se produit à la conception, toute la formation de l'enfant qui va naître est dirigée et gouvernée par cette conscience qui va s'incarner. Le choix des éléments, l'attraction de la substance, un choix parmi les forces et même la substance de la matière qui est assimilée. Il y a déjà un triage. Et ça donne naturellement des conditions tout à fait spéciales dans la formation du corps qui peut être déjà plus ou moins développée, évoluée, harmonisée avant sa naissance. Je dois dire que c'est tout à fait exceptionnel. Mais en fait, ça se produit. Il y a des cas plus fréquents où juste au moment de sa naissance, c'est-à-dire de son premier geste d'indépendance, et quand l'enfant commence à se faire les poumons en criant autant qu'il peut, à ce moment-là, très souvent, cette espèce d'appel de la vie rend la descente plus facile et plus efficace. Il y a des fois où des jours et quelquefois des mois se passent et la préparation est lente et l'entrée se fait très progressivement, d'une façon tout à fait subtile et presque insaisissable. Il y a des fois où ça vient beaucoup plus tard, quand l'enfant lui-même devient un peu conscient et qu'il sent une relation très subtil, mais très réel, avec quelque chose qui, d'en haut, de très haut, est comme une influence qui pèse sur lui. Et alors, il peut, lui, commencer à sentir le besoin d'être en rapport avec cette chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, mais qu'il sent seulement, et que cette aspiration le tire et le fait descendre en lui. Je vous donne ici quelques cas assez fréquents. Il y en a beaucoup d'autres. Cela peut se produire d'innombrables manières. ce que je vous ai décrit, ce sont les cas les plus fréquents que j'ai vus. Alors, cette âme qui veut s'incarner, quelquefois, elle reste dans un domaine de mental supérieur à proximité de la Terre, ayant choisi sa demeure future, où elle peut descendre davantage dans le vital et de là avoir une action plus directe, ou alors elle peut entrer dans le physique subtil et gouverner de tout près le développement de son corps futur. Maintenant, l'autre question, celle concernant le départ. Ça aussi, ça dépend du degré de développement, des conditions de la mort, et surtout de l'unification de l'être et de son attitude au moment de quitter le corps. Il était question ici d'être pleinement développé, c'est-à-dire de psychique pleinement développé, et je ne sais pas si on parle d'un être psychique qui a profité de sa présence dans un corps physique pour faire le yoga, parce qu'alors les conditions sont tout à fait différentes. Mais, d'une façon plus générale, souvent je vous ai dit que tout dépend en ce qui concerne le revêtement extérieur de l'être. Tout dépend de son attitude au moment de mourir. Et cette attitude dépend nécessairement de son développement intérieur et de son unification. Si nous prenons le cas le meilleur de quelqu'un qui a complètement unifié son être autour de la présence divine en lui, qui n'est plus qu'une volonté, qu'une conscience. Cet être-là aura groupé autour de son être psychique central un mental pleinement développé et organisé, un vital absolument soumis et collaborant, et un physique obéissant, docile et souple. Ce physique étant pleinement développé aura un corps subtil, ce que Shobindo appelle un physique véritable, qui dépassera infiniment les limites de son corps et qui aura une souplesse, une plasticité, un équilibre suffisant pour qu'il puisse adhérer aux parties intérieures de l'être et suivre le mouvement de l'âme dans son... Je ne vais pas parler d'ascension, mais dans ses pérégrinations en dehors du corps. Ce que l'âme fera, où elle ira, tout dépend de ce qu'elle a décidé avant de quitter le corps. Et cette capacité de maintenir autour d'elle l'être qui a été pleinement organisé et unifié dans la vie physique, lui permettra effectivement de choisir ce qu'elle voudra faire, qui est aussi un champ très différent de possibilités. Depuis, passer consciemment d'un corps dans un autre, tout droit. Il y a des cas où un de ces êtres pleinement conscient et pleinement développé a lentement préparé un autre être qui soit capable de le recevoir et de l'assimiler. Et afin de ne pas cesser son travail matériel, quand il sort d'un corps, il va se joindre à un autre être psychique, se fondre en lui, s'ajouter à lui, dans un autre corps physique. Ça, c'est le cas extrême, extrêmement rare aussi, mais qui fait partie de la connaissance occulte tout à fait traditionnelle. Il y a le cas à l'autre extrême, où le corps, où l'âme ayant fini son expérience corporelle, désire l'assimiler dans le repos et se préparer à une autre existence physique. Plus tard, quelquefois beaucoup plus tard, et alors, il se produit ceci, entre beaucoup d'autres possibilités. Il laisse dans chaque domaine, dans le domaine subtil, physique subtil, dans le domaine vital, dans le domaine mental, les êtres correspondants. Il les laisse avec une sorte de lien entre eux, mais ayant une existence indépendante. Et lui-même pénètre dans la zone, la réalité, le monde psychique propre, et y entre dans un repos béatifique assimilateur jusqu'à ce qu'il ait, comme c'est décrit dans ce sous-papier, assimilé toutes ses bonnes œuvres, digéré toutes ses bonnes œuvres, et qu'il soit prêt pour recommencer une expérience nouvelle. Et alors, si son travail a été bien fait, et si les parties de son être, ou des revêtements de son être qu'il a laissés dans les différents domaines, s'y sont comportés comme il faut, quand il redescendra, il revêtira l'un après l'autre toutes ces parties qui vivait avec lui dans une vie passée, et avec cette richesse de connaissances et d'expérience, il se préparera à entrer dans un corps nouveau. Cela peut être après des centaines ou des milliers d'années. Parce que dans ces domaines-là, tout ce qui est organisé n'est plus nécessairement soumis à la décomposition que nous appelons ici la mort. Dès qu'un être vital est pleinement harmonisé, il devient immortel. Ce qui le dissout et le disloque, ce sont tous les désordres intérieurs et toutes les tendances justement de destruction et de décomposition. Mais s'il est pleinement harmonisé, organisé et pour ainsi dire divinisé, il devient immortel. Pour le mental, c'est la même chose. Et même dans le physique subtil, les êtres qui se sont pleinement développés, qui ont été imprégnés des forces spirituelles, ne se dissolvent pas nécessairement après la mort. Ils peuvent continuer une action ou ils peuvent prendre un repos salutaire dans certains éléments de la nature, comme l'eau, ou comme... Généralement, c'est dans un liquide. C'est dans l'eau, ou c'est dans la sève des arbres, ou, n'est-ce pas, ça peut être comme il est décrit là dans des nuages. Mais ils peuvent aussi rester actifs et continuer d'agir sur les éléments plus matériels de la nature physique. Je vous ai donné là un certain nombre d'exemples. Je vous dis, je pourrais vous parler pendant des heures, et il y en aurait toujours des nouveaux à donner. Mais ça couvre le sujet d'une façon un peu générale, et ça ouvre la porte aux imaginations. Voilà. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui, non ? Les autres questions, ce sera pour une autre fois.